Et c'est l'heure du journal avec Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une accalmie pour Alep en Syrie, mais les combats se déplacent plus à l'ouest. Un camp de réfugiés a été pris pour cible par des raids aériens dans la province voisine, faisant de nombreuses victimes.
La Turquie est-elle en train de devenir un régime autocratique? Le président Erdogan pousse son premier ministre vers la sortie et resserre un peu plus le pouvoir autour de sa personne.
L'Europe bouleversée par la crise des migrants, le pape François reçoit aujourd'hui le prix Charlemagne pour saluer ses appels à l'accueil des victimes de la guerre. La Bulgarie également détonne dans l'Europe de l'Est et plaide pour les quotas de migrants.
Un grand magasin ouvert 15 dimanches par an à Paris, ce sera une première. Les syndicats du BHV viennent de donner leur accord.
Et dans le même temps, nous nous pencherons sur cet appel lancé dans Alternatives économiques. Travailler moins pour travailler tous. Le débat sur la réduction du temps de travail, une exception bien française. C'est tout le cynisme de la guerre. La trêve décrétée jusqu'à ce soir à Alep en Syrie semble tenir. Un répit de 48 heures pour les habitants d'une ville sous les bombes depuis 10 jours. Mais dans le même temps, on apprend qu'un camp de réfugiés dans la province voisine d'Idleb a été pris pour cible par des raids aériens. Au moins 28 civils ont péri et parmi eux, probablement, des familles ayant fui les violences d'Alep. Le récit de notre correspondante dans la région, Laure Stéphan.
C'est un camp de déplacés près de la localité de Sarmada, à une vingtaine de kilomètres de la frontière turque, qui a été pris pour cible hier après-midi. Un camp de 3000 personnes pour la majorité des familles ayant fui au cours des derniers mois ou des dernières semaines les combats dans la région d'Alep et interdit d'entrer sur le sol turc par Ankara. Les images présentées par des secouristes comme provenant de ce camp nommé Al-Kamouna et prises après les frappes sont terrifiantes. On voit entre autres le cadavre d'un bébé mutilé au milieu du sang et de la boue. D'autres clichés fournis par des militants de l'opposition montrent des tentes calcinées, des affaires jetées sans dessus dessous. Les civils réfugiés dans ce camp étaient déjà en situation de vulnérabilité. Certains ont déjà été déplacés plusieurs fois. Pour les activistes de l'opposition qui affirment qu'il n'y avait pas de combattants sous les tentes d'Al-Kamouna, il n'y a aucun doute, c'est le régime qui a bombardé le camp en tirant 4 missiles. Des informations qu'il n'est pas possible de vérifier de façon indépendante pour l'heure. Mais ce que l'on sait, c'est que si dans le ciel syrien volent aussi les avions de la coalition internationale, la province où se trouve le camp est une zone où opèrent les forces aériennes syriennes et russes.
La correspondance à Beyrouth de Laure Stéphan et le chef des opérations humanitaires de l'ONU s'est dit horrifié, écœuré. Il a réclamé une enquête sur ce bombardement. Le regain de violence à Gaza a fait sa première victime hier. Une Palestinienne a été tuée par des tirs de chars israéliens. Les violences de ces jours-ci sont les premières depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014. L'armée de l'État hébreu a mené des raids sur des positions du Hamas. En fait, à l'origine de ces tensions, Israël dit avoir découvert des tunnels reliant le territoire palestinien à l'extérieur. Le président Erdogan resserre son emprise sur la Turquie. On a appris hier le départ de son premier ministre, Ahmet Davutoğlu. Il se retire de la direction de l'AKP, le parti au pouvoir, et du gouvernement. La rupture semble consommée entre le chef de l'État et son numéro 2. Davutoğlu a pris soin de préciser hier que son départ n'était pas le fruit d'un choix personnel, mais d'une nécessité. Alors la Turquie prend-elle la voie d'un régime autocratique? Des éléments de réponse avec l'analyse de Jean Marcoux de l'Observatoire de la politique turque.
Ce qu'on peut penser, c'est que le régime présidentiel que veut Recep Tayyip Erdogan est un régime où le pouvoir va être de plus en plus centralisé dans le parti, on le voit bien, hein, et un président qui dominera finalement le régime de la tête et des épaules et qui supportera de moins en moins l'opposition, que ce soit l'opposition partisane au sein du Parlement. Il y a des députés, en particulier les députés kurdes, qui sont menacés d'une levée d'immunité parlementaire. Que ce soit la presse, hein, la liberté de la presse a considérablement reculé en Turquie au cours des deux dernières années. Depuis qu'Erdogan a été élu, je crois qu'il y a 1800 personnes qui ont été poursuivies pour insulte au président. Donc on est dans une évolution du régime qui est très inquiétante et cette dernière péripétie n'est pas très réjouissante. On peut s'inquiéter des décisions qui seront prises parce qu'on a quelqu'un qui est quand même très impulsif. Il y a un autre risque pour Erdogan, c'est comment va réagir sa propre majorité. Parce que Davutoğlu poussé dehors, il y avait eu Gül le pousser dehors il y a 2 ans, on risque de créer quand même aussi un cartel des mécontents qui, à un moment ou à un autre, peut être tenté de créer une force politique alternative. Dans un régime où il y a un parti qui est trop dominant, une des issues, ça peut être une division du parti, ou en tout cas une évolution de ce parti en plusieurs branches qui ferait qu'il aurait du mal à retrouver une majorité absolue.
Jean Marcoux de l'Observatoire de la politique turque, il était joint par Nabila Amel. La Turquie, plus proche également de l'Europe à la faveur de la crise des migrants, mais d'une Europe bouleversée. Hier, les principaux dirigeants se réunissaient à Rome, en Italie. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé ses partenaires à défendre les frontières externes de l'Europe pour garantir la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen et éviter un retour au nationalisme. Ce dossier migratoire en Europe devrait aussi être au cœur aujourd'hui d'un autre discours à Rome, celui du pape François. Il reçoit le prix Charlemagne, une récompense pour une personnalité engagée en faveur de l'Europe. Le pape a en effet rappelé récemment au vieux continent sa tradition d'accueil en ramenant de l'île grecque de Lesbos des familles de réfugiés syriens. Mathilde Imberti à Rome.
C'est son ami, le cardinal allemand Kasper, qui a convaincu le pape d'accepter le prix Charlemagne. Car à l'écouter, il n'est pas friand des récompenses. Mais ce prix doit lui servir de tribune. Le pape devrait axer son discours ce midi sur la refondation européenne. Il abordait la question déjà dans une interview au mois de février dernier.
Où sont passés les Schuman, les Adenauer, les pères fondateurs de l'Europe? La parole qui m'a vraiment plus, c'est la refondation de l'Union européenne. Nous devons tout faire pour que l'Europe ait la force d'aller de l'avant.
Dans son discours au Parlement européen à Strasbourg en 2014, le pape François rappelait son devoir à l'Europe, prendre soin de la fragilité des peuples et des individus. Depuis, la crise migratoire a déchiré le vieux continent et le pape martèle la nécessité d'accueillir les plus faibles. Il est lui-même rentré de Lesbos en Grèce récemment avec 12 réfugiés syriens. François est le deuxième pape à recevoir le prix Charlemagne après Jean-Paul II en 2004, qui déjà rêvait d'une Europe sans murs, exemplaire en matière de justice, de paix et de fraternité.
D'un côté donc la réunion de Rome, de l'autre le groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, fermement opposés à des quotas d'accueil des réfugiés. Mais contrairement à ce que l'on a pu penser, des voix s'élèvent aussi en Europe de l'Est pour dire oui à l'arrivée des demandeurs d'asile et oui à des frontières ouvertes au sein de Schengen, dont la voix de la Bulgarie, Bruno Kaden.
Les pays de l'Est bénéficient le plus des aides de l'Union européenne. Il est donc logique qu'ils acceptent les quotas de réfugiés, car la solidarité n'est pas à sens unique. Ce n'est pas un dirigeant d'un pays d'Europe occidentale qui a fait cette déclaration fracassante, mais Boyko Borisov. Dans la ligne de mire du Premier ministre bulgare, les 4 poids lourds d'Europe de l'Est, réunis dans le groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Et le chef du gouvernement bulgare d'enfoncer le clou en rappelant que les pays de l'Est sont heureux quand l'argent est versé et qu'en échange, il est normal de faire preuve de solidarité et d'entraide quand les pays les plus riches ont un problème. La Bulgarie accepte donc son quota de 1200 migrants et se déclare même prête à en accueillir au moins 2000 si nécessaire. Pour tenter de faire un contrepoids au puissant groupe de Visegrad, la Bulgarie cherche des alliés parmi les autres pays de l'Est au sein de l'UE. Le chef de la diplomatie bulgare, Daniel Mitov, est à Zagreb pour rencontrer son homologue croate, Miro Kovac. Les deux jeunes diplomates, 38 et 47 ans, sont d'accord sur le partage des migrants et sur la volonté de défendre les frontières extérieures de l'UE. Car derrière ces déclarations se cache également la volonté des Bulgares, Croates, mais également Roumains, de rejoindre Schengen, dont ils ne sont pas encore membres.
Et enfin, toujours à propos de cette crise migratoire, elle s'est traduite hier par une course-poursuite spectaculaire entre la Belgique et la France. Sur l'autoroute A16 Paris-Ostende, la police belge a pris en chasse 4 hommes soupçonnés d'être des passeurs. Les agents ont tiré sur leur voiture, blessant par balle l'un des suspects et entraînant des accidents en série. Un motard a été tué. Les premiers résultats des élections locales au Royaume-Uni ont voté hier pour des conseils régionaux et municipaux. Selon des résultats partiels, les travaillistes du très à gauche Jeremy Corbyn reculent. Et en Écosse, les indépendantistes du SNP revendiquent il y a quelques instants une victoire historique au nouveau Parlement écossais. 3e victoire consécutive pour le Scottish National Party. Pour la mairie de Londres, il faudra attendre le verdict des urnes jusqu'à cet après-midi.
8h09 sur France Culture, la suite du journal et en plein pont de l'Ascension, une nouvelle victoire pour les partisans du travail dominical, Amélie.
Et oui, le BHV à Paris pourrait devenir le premier grand magasin à ouvrir le dimanche. Les syndicats Sud et CFE-CGC viennent de signer un projet d'accord. Les contreparties pour les salariés, pas plus de 15 dimanches par an, un salaire doublé et un jour de récupération pour chaque dimanche travaillé. Le BHV, propriété des Galeries Lafayette, pourrait mettre en place la nouvelle organisation dès cet été. Emmanuel Ruffez.
Le revirement est inattendu. Il y a quelques mois encore, par référendum, les salariés se sont opposés majoritairement au travail du dimanche. Mais la direction a affiné son projet et réussi contre toute attente à faire pencher de son côté les représentants du syndicat sud du BHV. La CFE-CGC était déjà favorable à l'accord. Jacques Biancotto, président de la CFE-CGC Commerce.
La majorité des cadres du BHV étaient partie prenante pour cet accord. Il est évident qu'avec le Forum des Halles, il y a une concurrence directe et on se devait aussi, disons, d'ouvrir ce magasin le dimanche.
Les syndicats opposés au travail du dimanche sont furieux. L'avis des salariés est bafoué, disent-ils, c'est une mascarade. Ils n'ont surtout pas de mots assez durs pour qualifier leurs collègues de Sud. Alexandre Torgomian, ex-CFDT, désormais secrétaire général du syndicat commerce indépendant et démocratique.
Le syndicat Sud s'est laissé convaincre. Moi, j'estime à titre personnel qu'ils n'ont aucune conviction et qu'ils préfèrent sacrifier le repos des salariés. Parce que là, clairement, ils ont fait un cadeau à la direction. Ça ne veut pas dire qu'ils aient fait un cadeau aux salariés puisque les salariés étaient contre.
Si d'ici une semaine, cet accord est entériné, la direction devra d'abord recueillir par écrit les avis de volontariat, puis établir les plannings. Ensuite, eh bien, ce sera parti pour 3 ans, à condition bien sûr que l'ouverture du dimanche s'avère bel et bien rentable.
Et pendant que certains acceptent de travailler le dimanche, d'autres militent pour réduire le temps de travail. Ils y voient un moyen de faire reculer le chômage. C'est le sens de l'appel de 150 personnalités dans le magazine Alternative Économique. Parmi elles, Michel Rocard, la sociologue Dominique Méda, l'écrivain Marie Desplechin ou encore le patron du PCF, Pierre Laurent. Un débat très franco-français, Jean-Marc Chardon.
Travailler moins pour travailler tous, c'est la proposition qui est au cœur de la controverse, avec l'idée de comprimer au maximum le chômage. En réduisant la durée à 32 heures, il serait même possible de générer 4,5 millions d'emplois, à en croire la CGT, dont le secrétaire général est lui-même signataire. Le type d'argument qui a le mérite de la simplicité arithmétique, mais qui n'apporte aucune assurance de réussite, déjà parce que l'expérience française des 35 heures aurait certes permis de créer quelques 350 000 emplois entre 1998 et 2002, mais à une époque où les autres pays européens ont eux aussi créé beaucoup d'emplois. La plupart des voisins de la France l'ont fait en privilégiant une autre piste, celle du travail à temps partiel. Ces pays voient leur chômage diminuer, notamment depuis ces dernières années, à l'inverse de la France. Or, cette piste du temps partiel, même s'il s'agit d'une forme de partage du travail, elle suscite beaucoup de défiance dans l'Hexagone, car elle se conjugue avec plus de flexibilité, de précarité aussi, et qu'elle est surtout pratiquée par les femmes. C'est ainsi que le projet de réduction globale du temps de travail revient ou essaie de revenir en force, mais avec un handicap majeur, la difficulté de ses défenseurs à se mettre d'accord sur le choix des modalités de mise en œuvre. Entre ceux qui voudraient considérer la durée de travail tout au long de la vie, jouer sur la modulation, et les partisans de la semaine de 4 jours payés 5, ceux qui veulent légiférer et les autres, il y a place pour toutes les options possibles.
Terminons cette édition par un avant-goût de notre magazine de la rédaction. Il est consacré ce soir à une guerre presque oubliée, celle que mène le Nigeria contre le groupe islamiste Boko Haram, qui s'est étendu à tous les pays limitrophes, notamment au Tchad. Bonjour Valérie Crovin.
Bonjour.
C'est donc là que vous vous êtes rendu, particulièrement dans la région du lac Tchad.
Oui, le lac Tchad qui délimite la frontière entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et donc le Tchad. Il est composé d'une multitude d'îlots qui sont autant de refuges potentiels pour les combattants de Boko Haram. Ces derniers sont soumis à une forte pression depuis que la force régionale composée des armées des 4 pays riverains intervient militairement. Le groupe islamiste a été chassé de la plupart des villes et des villages qu'il contrôlait au nord-est du Nigeria. Mais la menace existe toujours car ces combattants se sont repliés dans des réduits comme le lac Tchad. Affaiblis militairement, Boko Haram conserve un fort pouvoir de nuisance à travers des attentats suicides qui demandent peu de moyens.
Et Valérie, vous avez rencontré des victimes de ces attentats.
2 petites filles, l'une a été amputée d'un bras, l'autre d'un pied. Elle se trouvait à Bagassola quand un triple attentat suicide s'est produit en octobre dernier. Bagassola, c'est une petite ville qui est située sur les rives du lac Tchad. Alors pour ce protéger des attaques, les habitants ont mis en place des comités de vigilance à l'entrée du marché qui avait été visé par l'un de ces attentats. Des hommes et des femmes fouillent ceux qui rentrent à la recherche d'explosifs. Boko Haram a utilisé à plusieurs reprises des jeunes femmes comme bombes humaines. Du coup, le gouvernement tchadien a pris une mesure radicale. Il a interdit le port de la burqa car plusieurs des kamikazes femmes cachaient leurs bombes sous leur burqa.
Et Valérie, la région du lac Tchad accueille aussi des milliers de réfugiés et de déplacés du conflit.
Oui, on estime à plus de 56 000 le nombre de déplacés. Le nombre de réfugiés en provenance du Nigeria tourne quant à lui autour de 7 000. La plupart d'entre eux vivent dans un camp à une demi-heure de Bagassola, le camp de Dar es Salaam, où l'UNICEF fait un énorme travail pour scolariser les enfants. C'est la revanche de l'histoire. Ces enfants ont dû fuir à cause de Boko Haram, que l'on peut traduire par « l'éducation est un péché ». Eh bien, ces enfants apprennent aujourd'hui à lire et à écrire dans un camp de réfugiés.
Lac Tchad, fuir Boko Haram, c'est le titre de votre magazine de la rédaction. Valérie Crova, merci beaucoup. Un magazine réalisé par Annie Bro et présenté cet après-midi par Aurélie Kiefer. C'est de 17h à 18h sur France Culture. On termine par le temps de ce vendredi. Encore beaucoup de soleil partout sur le pays. Des averses arriveront toutefois en fin de journée sur la Bretagne et le Pays Basque. Les températures sont douces ou les températures sont tures. Je ne sais pas. Je vous laisse choisir. Avec des minimales comprises entre 5 et 15 degrés ce matin. Et cet après-midi, on grimpera jusqu'à 19 à Lorient, 23 degrés à Strasbourg et à Nîmes, 24 à Bourges et Arcachon, 25 degrés pour Paris, Nicolas Martin.